Chapitre 8. Trois jours après le départ de Madame Mulbach, la marquise et Alain vinrent à Kerhéven. Inès les reçut d'abord avec une certaine froideur qui, peu à peu, fondit devant la bonne grâce de la châtelaine et la simplicité charmeuse d'Alain. Mais surtout, elle parut frappée de la vive sympathie aussitôt témoignée par sa fille à la vieille dame et au jeune châtelain. Florita, bien que toujours polie à l'égard des étrangers, était une petite personne réservée qui étudiait longuement les physionomies et ne se laissait pas prendre aux câlineries des gens déplaisants. Or, spontanément, elle se jeta dans les bras de Madame de Pinvalas, puis, un peu plus tard, grimpa sur les genoux d'Alain et se mit à babiller. Le jeune garçon lui donnait gaiement la réplique en caressant les belles boucles blondes. Quoiqu'ayant bon nombre de cousines de tout âge, il trouvait en général les petites filles assommantes. Mais cette mignonne Florita était une véritable ensorceleuse, avec son délicieux sourire qui creusait dans ses joues de petites fossettes et ses yeux noirs d'une douceur veloutée, tour à tour vifs et caressants, expressifs comme nul au monde. En outre, vive comme une petite chèvre, mais sachant se faire toute silencieuse quand elle voyait sa mère plus fatiguée. Elle a un cœur et une délicatesse incroyables pour son âge, déclara Madame de Valserre à la marquise. D'elle-même, la jeune veuve, quand ses visiteurs la quittèrent, exprima le désir de les revoir quelquefois. « Je n'irai pas vous rendre votre visite, ajouta-t-elle, je suis si fatiguée. En outre, je ne puis plus quitter Kerhéven. » Après une courte hésitation, elle expliqua, tandis qu'un frémissement courait sur son visage émacié, « C'est un vœu que j'ai fait. » « En ce cas, vous nous enverrez votre Florita pour jouer avec ma petite fille. »« Oh, cela bien volontiers. » Quand Madame de Pinvalas et Alain se furent éloignés, Florita vint s'appuyer contre sa mère et dit gravement, « J'aime beaucoup la cousine, maman, et j'aime le cousin Alain surtout. » Inès sourit à peine, et 5 minutes plus tard, elle retombait dans ses mornes songeries habituelles. Très vite, les rapports devinrent journaliers entre Runesto et Kerhéven. Armel et son institutrice venaient chercher Florita, ou bien Augustine conduisait au château la petite fille qui devenait la joie de tous. Alain, particulièrement, raffolait de cette jolie enfant sauvée par lui et qui témoignait de son côté au cousin Alain une tendresse très vive. Le jeune garçon disait en souriant, « Nous nous entendons admirablement tous deux, n'est-ce pas, petite fleur ?» Et l'enfant, lui jetant ses bras autour du cou, répondait dans un baiser, « Oh oui, je t'aime tant, cousin Alain !» Par contre, Florita, comme le jeune châtelain, semblait avoir de l'éloignement pour Elsa Hoffel. Quand la petite étrangère l'embrassait, on la voyait se raidir un peu, prendre sa figure de marbre, comme disait Alain, et les beaux yeux noirs, qui savaient se faire si tendres, avaient une expression de défiance dont un jour fut frappé le jeune garçon. En se promenant peu après avec Florita dans le parc, il demanda « Elle n'a pas l'air de te plaire beaucoup, Elsa, dit ma fleurette. » Florita répondit résolument « Non, je ne l'aime pas. » « Pourquoi, petite ?»« Je ne sais pas. »« Bon, c'est comme moi, alors. » Florita leva les yeux sur lui. « Tu ne l'aimes pas non plus, toi, cousin Alain ? Elle est pourtant bien gentille pour toi. » L'intelligente petite créature avait vu juste. Elsa témoignait au petit-fils de sa protectrice une admiration discrète, habilement mêlée de délicates flatteries. L'intelligence d'Alain, ses brillantes études, son adresse à tous les sports, son élégance naturelle et surtout son orgueil de race étaient l'objet des encensements dans lesquels excellait cette fillette déjà singulièrement habile pour l'intrigue. À Runesto, Elsa s'arrangeait d'ailleurs pour être bien vue de tous, serviable, toujours aimable, sachant s'effacer à propos, elle s'attirait l'estime et la sympathie des maîtres comme des domestiques. L'insolent Maurice de Ronchet lui-même la trouvait une bonne petite parce qu'elle flattait sa vanité aussitôt que s'en présentait l'occasion. Madame de Pinvalas répétait fréquemment. « Vraiment, nous avons de la chance d'être si bien tombés en secourant cet enfant. Elle est réellement parfaite. » Alain ne protestait pas. Il n'avait rien à reprocher à la protégée de sa grand-mère. Son antipathie pour elle était vague et tout instinctive. D'ailleurs, elle fléchissait un peu, tant il est vrai que la flatterie habile reste rarement sans effet. Mais Florita, elle, ne se laissait pas prendre aux cajoleries d'Elsa. Et cet échec devait être sensible à la fillette, si l'on en jugeait par le regard malveillant dirigé vers la petite de Valserre quand elle n'était pas observée. Pour Inès, la vie restait aussi morne à Kerhéven. En dehors des moments que venait passer près d'elle Madame de Pinvalas, elle demeurait dans sa chambre, inactive, les yeux fixés sur un portrait de son mari en tenue de lieutenant de vaisseau. Dans cette existence claustrée, elle s'étiolait, devenait d'une pâleur de cire. Mais toutes les instances de la marquise, pour qu'elle changeât ce genre de vie, se heurtaient à une obstination morbide. « Non, je ne sortirai pas d'ici. Maintenant, tout est fini pour moi. »« Mais songez du moins à votre petite fille, ma chère enfant. » Elle secouait la tête. « Florita, je ne saurais pas l'élever, je n'ai pas la force. D'autres s'en occuperont. » Elle paraissait même commencer de se détacher de sa fille maintenant. Et Madame de Pinvalas, d'après son propre témoignage et ce que lui racontait Augustine de l'état d'esprit constaté chez sa maîtresse, se rendait compte que le cerveau était profondément atteint. Elle fit part de cette attitude à Madame Mulbar, en répondant vers le début de septembre à une lettre que celle-ci lui écrivait pour avoir des nouvelles de sa sœur, et elle ajoutait « Il est absolument impossible qu'elle demeure à Kerhéven au moment des grandes tempêtes d'automne, pour l'enfant comme pour elle d'ailleurs. Déjà elles en ont subi une l'autre jour. La pauvre petite Florita était, paraît-il, complètement terrifiée. Quant à Augustine, elle m'a déclaré que s'il lui fallait en supporter encore deux ou trois comme cela, elle en perdrait la tête. Madame de Valserre s'était enfermée dans sa chambre, et la servante l'entendait aller et venir par les tout-hauts de temps à autre. Puis, au matin, elle parut, l'air très calme. Et comme Augustine s'exclamait « Ah, madame, quelle nuit! J'espère qu'on n'en passera pas d'autres comme celle-là !» Elle répondit en levant les épaules « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il n'y a rien à craindre. C'est très beau, la tempête. » Il me le disait, et je ne comprenais pas alors. Mais maintenant, je vois qu'il avait bien raison. Le souvenir de son mari paraît prendre la forme d'une véritable hantise, et je crains que la raison de cette pauvre jeune femme ne vienne à sombrer complètement. Il faudrait, du moins, à mon avis, l'emmener de ce logis bien fait pour entretenir un tel état d'esprit, puis voir un spécialiste de ces sortes de cas. Je me permets de vous donner ce conseil, madame, puisque vous me demandez de vous renseigner au sujet de votre chère sœur, et aussi parce que la pauvre enfant m'inspire un vif intérêt. Peut-être vous sera-t-il possible, d'ailleurs, de venir vous rendre compte de cet état par vous-même. Ce serait le mieux, et à nous deux, nous ferions notre possible pour la décider à quitter Kerhéven. » Madame de Pinvalas reçut, quelques jours plus tard, un court billet de Pépita. Celle-ci, après avoir remercié la marquise, ajoutait « J'arriverai dans une quinzaine de jours à Kerhéven. Il m'est impossible de faire ce voyage plus tôt. Mais, comme vous le dites, madame, un plus long séjour de ma pauvre sœur dans une telle demeure est impossible. Au cas où elle s'obstinerait, je ferais venir un médecin, et nous aviserions à la faire partir de là. Puis, avec des soins et des horizons moins sauvages, j'espère que nous la guérirons, ma pauvre Inès. » Quand Madame de Pinvalas lut cette lettre à son petit-fils, celui-ci dit d'un ton de regret « Ma petite Florita va s'en aller en ce cas. » « Naturellement, mais toi-même, cher enfant, tu n'aurais pas tardé à regagner le collège. » « Oui, mais je l'aurais revue aux vacances de janvier. C'est étonnant ce qu'elle me manquera, cette petite-là. Et à moi aussi, je l'avoue. Jamais je n'ai connu d'enfant plus charmante. Un petit cœur d'or. Une nature si vive et si franche. Vraiment, il faut que le cerveau de la pauvre mère soit bien touché pour qu'une ravissante créature comme celle-là ne la rattache pas à la vie. En perspective de cette prochaine séparation, dont il ne dit mot d'ailleurs à Florita, le jeune garçon fit faire à sa petite cousine, les jours suivants, des promenades dans la légère voiture qu'il conduisait lui-même. Armelle et Maurice étaient de la partie. Parfois, bien qu'il n'y eût que 4 places, ces derniers se serraient pour qu'Elsa se glissât entre eux. Alain n'invitait jamais la fillette de lui-même. Toutefois, il ne s'opposait pas au désir de sa sœur quand elle demandait que la petite étrangère prît part à la promenade. Mais ces jours-là, Florita retenait avec peine une petite moue. Alain, qui la devinait, chuchotait, en enlevant la petite pour la faire asseoir sur le siège près de lui. « Eh bien, ma fleurette, on n'est pas contente aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela te fait? Tu lui tournes le dos, mignonne, donc tu ne la verras pas pendant la promenade. » Et Florita se rassérénait à cette idée. Le temps fort beau dans les premiers jours de septembre changea tout à coup, vers le 12. Et un matin, la tempête se déchaîna pour atteindre vers la fin de l'après-midi son maximum de violence. Yves Gouez, qui rencontra dans la matinée Alain de Pinvalas sur la route menant de Runesto à Kerhéven, lui cria en se penchant vers son oreille, car le vent hurlait de telle sorte qu'il était impossible de s'entendre. « Elle va en avoir du plaisir, la petite dame du commandant là-bas. Pour une belle tempête, ça sera une belle tempête, monsieur Alain. » Le jeune garçon répondit, « Je vais chercher la petite fille. Si la mère ne veut pas la suivre, qu'elle, au moins, ne passe pas une nuit pareille. » »« Vous avez bien raison, monsieur Alain. Cette pauvre jolie mignonne, elle finira par mourir de peur. » En luttant avec peine contre les rafales, Alain atteignit le promontoire. Là, c'était un déchaînement infernal. Le vent s'y acharnait, hurlant de concert avec les flots écumants qui se jetaient contre les flancs rocheux, s'engouffraient dans les étroits couloirs, se précipitaient à l'assaut des rocs impassibles. Et aussi loin que la vue s'étendait, sous les nuées d'un noir d'encre, la mer soulevée se gonflait en vagues monstrueuses, comme saisie d'un furieux délire. En se courbant, en rampant presque parfois, Alain réussit à atteindre Kerhéven, sombre et calme, dans cet infernal sabbat. Augustine, qui vint lui ouvrir, eut une exclamation à sa vue. « Oh, vous, monsieur Alain, par ce temps! Je viens chercher Florita, si sa mère veut bien nous la confier pour cette nuit. Et madame de Valserre devrait accompagner sa fille. Ma grand-mère l'attend. Ah, je ne crois pas, monsieur. Elle a des idées, ma pauvre madame. Voilà madame Mulbar qui vient d'arriver, il y a 10 minutes, et elle essaye déjà de la persuader de partir. Mais je crains bien qu'elle ne réussisse pas, car... » Et la servante se frappa le front. « Si monsieur veut entrer, je vais prévenir ces dames. » Elle introduisit Alain dans le salon et s'éloigna. 5 minutes plus tard, Pépita apparut, encore en tenue de voyage. Elle tendit la main au jeune garçon en disant « Augustine nous a expliqué en 2 mots le motif de votre venue par ce temps épouvantable. Que c'est bon à vous. Ma sœur veut bien que vous emmeniez Florita, mais elle refuse absolument de quitter ce logis, ne fût-ce que pour une nuit. C'est une folie. La tempête s'annonce des plus violentes, ainsi que me le disait tout à l'heure un vieux marin qui s'y connaît. » Pépita leva les mains au plafond. « Mais je ne puis rien, je me heurte à un mur. Il y a dans son regard quelque chose d'étrange, d'inquiétant. Oui, je crois qu'il est vraiment temps de l'enlever à cette solitude. Emmenez toujours l'enfant, monsieur, si vous le voulez bien. Je tâcherai encore, d'ici à cet après-midi, de décider ma sœur. Soit, madame, et au cas où vous réussiriez, vous trouveriez également très bon accueil à Runesto, où, naturellement, vous amèneriez aussi la servante. » Pépita remercia chaleureusement, puis s'éloigna pour préparer l'enfant. Quand elle entra dans la chambre d'Inès, elle trouva Florita assise sur les genoux de sa mère. Celle-ci baisait les boucles blondes en regardant la petite fille avec une sorte de résignation morne qui frappa vivement Pépita. À l'entrée de sa sœur, madame de Valserre leva la tête et dit brièvement Prends-la, emmène-la. » Florita noua ses bras autour du cou maternel en protestant. « Non, je reste avec toi, petite maman. Je n'aurai pas peur de la tempête, tu verras. » Mais Inès détacha doucement les jolis petits bras nus et dit avec calme. « Si, va avec ton cousin Alain, chéri. Va, Runesto. Là, tu seras bien mieux. Va, ma Florita. » Elle baisa la joue rosée, puis mit l'enfant à terre. « Couvre-la bien, Pépita. Mets-lui un peu de linge et ses chaussons dans un paquet. Par ce temps, elle le porterait difficilement, et je n'oserais en charger Monsieur Alain. » « C'est vrai, mais elle trouvera là-bas ce qu'il lui faut. Madame de Pinvalas est si bonne. Ma petite sera très heureuse là. » Pépita prit la main de l'enfant et sortit avec elle. Quand elle rentra un quart d'heure plus tard, ayant remis sa nièce entre les mains d'Alain, elle vit Inès dans le même fauteuil, immobile, le regard très lointain. S'approchant, elle s'assit près d'elle et voulut lui prendre la main. Mais la jeune veuve la retira, d'un geste tranquille. « Non, Pépita, c'est inutile. J'ai trop souffert à cause de ce que tu m'as laissé faire. Puis je sais bien que tu m'as trompée, que les plans d'André, c'est l'Allemagne qui les a. » Madame Mulbar protesta vivement. « Non, je te l'assure, Inès. C'est une idée que t'a donnée ton pauvre mari, mais je t'assure que je t'ai dit la vérité. Pourrais-tu me le jurer ?» Pépita eut un léger tressaillement, une hésitation. Mais Otto Mulbar avait étouffé chez elle la conscience, et il lui avait dit maintes fois, « Pour le triomphe de la patrie allemande, pour le service de notre empereur, tout est bien, tout est licite. » Avec un imperceptible tremblement dans la voix, elle fit le faux serment. « Je te le jure, Inès. » « Bien. » Il n'en reste pas moins qu'en volant ses plans, j'ai tué mon mari. Et si tu ne t'étais pas faite ma complice, je n'aurais pas eu le moyen de les vendre. Voyons, Inès, tu ne peux pas me reprocher cette faiblesse à laquelle j'ai cédé en te voyant si désemparée, car tu oublies trop volontiers à quels ennuis tu étais acculée à ce moment-là. C'est vrai, mais toi, l'aînée, toi qui m'as élevée, tu devais tout faire pour m'empêcher de commettre cette faute, ce crime. » Inès parlait d'une voix lente, monotone. Dans ses prunelles sombres, Pépita voyait toujours cette expression de morne détachement qui l'inquiétait fortement. Madame Mulbar protesta encore. « Tu exagères, ma chère enfant. Ces plans, tu les as pris à ton mari, non à un étranger. Donc, le tort est moindre. » Inès se leva d'un brusque mouvement et darda sur sa sœur un regard subitement enflammé. « Ah, tu trouves cela ? Eh bien, c'est tout le contraire. André avait mis en quelque sorte ses papiers sous ma garde, ne pouvant imaginer précisément qu'il dût se défier de sa femme, d'une femme qu'il aimait, qu'il avait comblée de bonté de toutes sortes. Et j'ai abusé de cette confiance pour lui voler ses plans, le fruit de son travail, de ses fatigues. Ah, j'ai réfléchi, va, depuis ce temps, et je vois bien que j'ai fait une chose horrible, horrible. Mais toi, tu ne comprends donc pas. Comment es-tu faite alors? Qu'est-ce que tu as dans le cœur, dans la conscience? » Elle croisa les bras en parlant d'une voix brève, saccadée, en attachant sur sa sœur des yeux où s'allumait une violente irritation. Pépita pensa, effrayée. « Pourvu qu'elle ne devienne pas folle tout d'un coup, que deviendrais-je ici, loin de tout secours ?» En réprimant son angoisse, elle dit avec douceur. « Mais si, je comprends que tu as eu tort, et moi aussi, moi plus que toi, puisque je suis l'aînée. Mon excuse est dans le désir que j'ai eu de te tirer d'embarras. Maintenant je regrette amèrement d'y avoir cédé, je t'assure, mon enfant. » Les regrets ne servent à rien. Il faut réparer quand on le peut. Moi j'ai fait, près de son lit de mort, le vœu de m'enfermer à Kéréven. Je l'ai tenu, tu vois. Il m'avait maudite avant de mourir. Mais je crois qu'il m'a pardonné maintenant, et il m'appelle. » Elle avait repris sa voix lente, son air de rêve. Ses bras se décroisèrent, retombant à ses côtés. Elle s'écarta de Pépita, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers sa sœur. « J'ai quelque chose à te demander, Pépita. »« Quoi donc, chère petite? Quand je serai morte, c'est probablement ton mari qui sera nommé tuteur de Florita. » « De quoi parles-tu, là, voyons, n'aie pas de ces pensées, mon enfant. » La jeune femme eut un mouvement d'impatience. « Je te dis qu'il m'appelle. Écoute-moi. Je veux que ma fille passe plusieurs mois chaque année chez ses cousins de Pinvalas, qui ont pour elle tant d'affection. Me le promets-tu ? » ?»« Oui, oui, je te le promets, Inès. Mais je suis bien certaine que je n'aurai pas à m'en occuper, car dès que tu auras quitté ce logis, ainsi que tout le monde te le conseille, ta santé se remettra vite. » Inès lui tourna le dos et alla appuyer son front contre la fenêtre, secouée par les furieuses rafales. Pépita sortit de la chambre. À peine se trouvait-elle à moitié du corridor qu'elle entendit la clé tourner dans la serrure. Inès s'enfermait dans sa chambre. Madame Mulbar alla s'asseoir dans le salon. Elle éprouvait une horrible inquiétude. La folie qu'elle avait vue dans les yeux de sa sœur ne conduirait-elle pas celle-ci au suicide? Tout dans les paroles d'Inès le donnait à craindre. Et pourquoi s'enfermait-elle ainsi? À plusieurs reprises, Pépita alla frapper à la porte, demandant qu'elle lui ouvrît. Mais Inès répondit laconiquement « Non, je veux être seule. » Et Augustine n'eut pas plus de succès en venant la prévenir que le déjeuner était servi. « Je n'ai pas besoin de manger, à quoi bon ?» Madame Mulbar, seule dans la grande salle à manger, essaya vainement d'avaler quelques bouchées. Le jour sombre, le lugubre vacarme de la tempête n'était pas fait pour atténuer son angoisse, pour diminuer son remords. Car elle se rendait bien compte que la grande coupable dans tout cela, c'était elle, le docile disciple d'Otto Mulbar. Après ce simulacre de déjeuner, Pépita retourna au salon. Elle prit un livre, essaya de suivre l'idée de l'auteur, mais sa pensée revenait toujours à Inès, enfermée dans cette chambre. Que faisait-elle? La tempête redoublait de violence, le jour s'assombrissait, à tel point qu'il devenait impossible de lire. Pépita jeta le volume sur une table et s'étendit dans un fauteuil, en fermant les yeux pour tenter de calmer ses nerfs surexcités. Au bout d'un temps assez long, elle tressaillit un peu en prêtant l'oreille. Il lui avait semblé entendre un bruit léger, celui d'une porte ouverte très doucement. Elle se leva, sortit du salon, et vit aussitôt que la porte d'entrée, bien fermée tout à l'heure, se trouvait maintenant simplement poussée. Pas de doute, quelqu'un venait de quitter la maison. D'une main agitée, Pépita tira le bâton de chêne, sortit sur le seuil, jeta un coup d'œil devant elle. Mais il n'y avait personne sur cette partie du promontoire battue par les vents déchaînés. Alors Madame Mulbar contourna le logis, puis le longea, se courba en se retenant au mur pour résister à la fureur des rafales. Par moments, elle s'arrêtait en étouffant. Ces quelques minutes lui semblaient atroces, interminables. Et quand elle fut à proximité de la maison, à quelques 20 mètres de la pointe du promontoire, elle vit une chose horrible. Inès, debout sur le roc proéminent qui formait cette pointe, Inès, petite silhouette noire battue par les vents, mouillée par les vagues énormes, dont l'écume, telle la bave d'un monstre prêt à dévorer, couvrait ses pieds, trempait sa jupe noire. Et les hurlements des flots du vent semblaient ceux d'une meute diabolique acharnée contre la jeune femme immobile qui tendait les bras vers la mer en furie comme pour lui dire « Prends-moi ». Pépita jeta un cri de terreur qui se perdit dans le vent et elle essaya d'avancer encore. Elle rampait, se retenant au roc, s'arrêtant à bout de souffle. Elle essayait d'appeler, mais Inès n'entendait rien. Et tout à coup, il y eut une rafale d'une violence telle que Pépita dut s'aplatir sur le sol et se couvrir le visage de ses mains. Quand elle put se redresser, un cri d'horreur s'échappa de ses lèvres. Inès avait disparu. Une vague plus forte ou bien le vent, ou plus probablement les deux à la fois, l'avait emportée.